Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Ça a été une journée un peu spéciale hier avec le lancement des nouveaux Mac Mini et des nouveaux MacBook Pro. Ce sont des machines importantes pour Apple et pourtant le constructeur s'est contenté d'un lancement assez discret. Alors évidemment c'est encore trop frais et on découvre encore de nouveaux détails sur ces nouveaux Mac. Mais on va quand même vous proposer en deuxième partie d'émission un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé hier. En attendant, c'est le Flash Info du mercredi 18 janvier. L'arrivée de nouveautés chez Apple provoque souvent une cascade de changements en tout genre pour les autres gammes et ça n'a pas raté. Alors ok, il y a les nouveaux Mac Mini et MacBook Pro et on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi eu des variations de prix à la hausse comme à la baisse. Au rayon des mauvaises nouvelles, l'iMac 24 pouces a pris une centaine d'euros en plus. Le tout-en-un avec sa puce M1 n'avait pas subi la hausse des prix de l'automne dernier, alors à la limite on peut comprendre qu'Apple ait voulu corriger cette grave erreur, même si bon, on aurait quand même préféré que rien ne change. Au bout du compte, l'iMac commence donc à 1549€ et le haut de gamme dépasse un cap symbolique à 2009€. Pour les bonnes nouvelles, car il y en a quand même, si vous mourez d'envie d'un MacBook Pro 14 ou 16 pouces mais sans avoir les moyens des nouveaux modèles, le refourbe d'Apple a baissé le prix des portables équipés des puces M1 Pro et M1 Max. On peut trouver un MacBook Pro 14 pouces avec une M1 Pro et 512Go de stockage à 1729€ maintenant. C'est 200€ de moins que le précédent prix du refourbe et 400€ de moins que l'ancien prix public. Et on va rester dans les très bonnes nouvelles avec cette disparition. Le Mac Mini Intel a enfin trouvé le chemin de la maison de retraite. Avec les nouveaux Mac Mini M2, Apple a complètement chamboulé la gamme et il faut dire au revoir et à jamais à un des tout derniers représentants des Mac Intel. Maintenant, c'est juste dommage qu'il n'existe plus de Mac Mini avec un boîtier gris sidéral, parce que quand même, ça avait la classe. C'est une pépite française qui pourrait bien disparaître au grand désespoir de millions d'utilisateurs. Oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais il va probablement falloir apprendre à vivre sans Salto. Ok, bon, j'en fais un peu trop pour ce service de streaming qui s'est lancé en 2020, en pleine pandémie. À l'époque, Salto avait sûrement l'ambition de marcher sur les plates-bandes des grosses machines américaines comme Netflix ou Disney+, mais assez rapidement, on a bien vu que la sauce ne prenait pas. Salto compte environ 800 000 abonnés, ça n'est pas si mal, mais les trois bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau ressemblaient plus à de méchantes sorcières. TF1 et M6 veulent se faire la malle, et France Télévisions n'est plus intéressée non plus. L'annonce d'une dissolution de l'entreprise pourrait tomber avant la fin de la semaine, et a priori, il n'y aura aucun repreneur. Ça y est, après des mois d'attente et d'angoisse, Apple a attendu le mois de janvier pour lancer de nouveaux Mac. Rendez-vous compte, on attendait ça depuis l'été dernier. Et Apple n'a pas fait les choses à moitié vu qu'on a eu droit à de nouveaux MacBook Pro et à une gamme de Mac Mini complètement revue. Ça valait bien qu'on revienne plus en détail sur tout ça avec Christophe, même s'il est encore trop tôt pour tirer le bilan de ces nouvelles machines. Salut Christophe.
Salut Mickaël, salut tout le monde.
Alors Apple ne s'est pas embêté à organiser un keynote pour les nouveaux Mac présentés hier et ça avait fait pareil pour l'iPad Pro M2 et l'iPad 10 en octobre dernier. Ce sont pourtant des machines qui pourraient mériter des présentations en grande pompe, mais il n'y a plus que l'iPhone qui a droit maintenant.
Oui, mais les keynotes, c'est un peu le monde d'avant. Mais c'est dommage parce qu'on aurait eu le droit à un keynote spectaculaire. Là, il y avait vraiment de quoi faire entre les deux nouveautés fortes de cette année. Donc on aurait eu une première demi-heure consacrée au nouveau Mac et un petit dernier quart d'heure consacré aux nouveautés de Fitness Plus et notamment avec des démonstrations de kickboxing. On a vraiment raté un truc là quand même, c'est un peu dommage. Hein.
C'est vrai, je regrette un peu.
Non mais plus sérieusement, c'est vrai qu'avant on faisait des keynotes, mais quand il y avait des keynotes, il fallait qu'il y ait quand même du lourd, quelque chose vraiment de nouveau et d'innovant à présenter. Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu en octobre dernier, a priori Apple a réfléchi deux fois en ce qui concerne l'iPad. A priori, elle voulait faire un keynote et puis à la fin, elle s'est rétractée. Mmh. Mais c'est vrai que le format keynote, depuis la pandémie, il a pris un petit peu un coup de vieux. C'est-à-dire que la Covid-19 est arrivée et Apple devait toujours faire ses annonces. Ouais. Donc, elle a eu cette petite idée de dire, au lieu de faire des keynotes en direct avec du public, on va enregistrer un petit film publicitaire d'une heure, mais ça sera un keynote comme un autre, sauf qu'on met la cassette, on appuie sur lecture et c'est parti. Et finalement, ça a beaucoup d'avantages parce que malgré tout, un keynote, c'est des ratés potentiels, une démonstration qui se passe pas comme prévu. Ouais. c'est un public qui, dans certains cas, peut être un petit peu, même ici, il est très très complaisant, mais par exemple, lors d'une hausse de prix ou une fonctionnalité qui plaît pas, qui peut de temps en temps se montrer un peu moins enthousiaste qu'à l'accoutumée.
Ouais.
Donc voilà. Donc ça, c'est le format qu'on a eu et qui, pour l'instant, est entre guillemets le format standard. Et puis là, finalement, ils se sont, a priori, chez Apple, on s'est dit, ouais, quand on a des nouveautés, mais qu'on veut pas non plus en faire tout un pataquès, et ben, au lieu de diffuser un keynote en entier, on garde juste la vidéo promotionnelle qu'on fait passer en plein milieu qui dure 10 ou 20 minutes, et le tour est joué. Voilà, emballé, c'est pesé. Il y a rien à faire. Bon, et cette vidéo, alors, concernant les nouveaux Mac, on l'a regardée, et là, donc, on va vous la divulgâcher, hein. Donc, essentiellement, elle se tient en trois axes. Le premier enseignement, c'est quand même le Mac Mini est plus rapide.
Oui.
Grâce à sa nouvelle puce M2 ou M2 Pro. Le deuxième, c'est que le MacBook Pro 14, il est encore plus rapide.
Oui.
Et le dernier, c'est que le MacBook Pro 16, il est follement rapide.
Alors, avant d'entrer dans les détails de ces MacBook Pro et du Mac Mini, on va quand même parler de ces nouvelles puces M2 Pro, M2 Max, vu que c'est là-dessus que Apple a d'abord communiqué. Alors, évidemment, on ne sait pas encore de quel bois ces nouvelles puces se chauffent, mais on peut s'attendre à des gains de performance, évidemment. Apple parle de 20% de mieux entre la M1 Pro et la M2 Pro, par exemple. Par contre, il y a zéro gain sur le processus de gravure. Apple parle de 5 nanomètres de deuxième génération.
Alors c'est cette révision, c'est par contre c'est vraiment le monde d'avant. Ouais. C'est un vrai speed bump à l'ancienne. D'ailleurs, ouais. J'ai entendu des cris de désespoir à la rédaction. Hein. Disant non, oh là là, on va se concentrer uniquement sur des tests de perf et rien d'autre. Et quelque part c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on nous annonçait un nouveau monde, de nouvelles possibilités avec ces nouvelles puces. Et finalement, un MacBook Pro, ça reste un MacBook Pro. Bon, évidemment, il est beaucoup plus rapide. Il a tous les avantages de l'architecture Apple Silicon, mais l'objet est quasiment identique. Le Mac Mini, c'est comme l'iPhone SE, il est indémodable. Enfin, je veux dire, ça ne change pas. Il est là pour l'éternité, je pense. Mais voilà, à croire que la prochaine transformation du Mac, et je fais référence à l'article que tu as écrit lundi dernier, ce sera les Mac tactiles qui, semble-t-il, sont maintenant une réelle possibilité chez Apple, mais bon, il paraît que c'est pas avant 2025. Voilà. Alors moi j'espère que d'ici là, avec un peu de chance, en croisant les doigts, on aura la 5G dans un Mac d'ici là. Et alors oui, pour en revenir à cette histoire de gravure, donc c'est un petit peu ta question initiale, c'est vrai que finalement c'était la seule véritable interrogation sur ces M2 Pro et M2 Max, à savoir si ça allait être du 3 ou du 5 nanomètres. Bon, après donc c'est du 5 nanomètres, quelque part, cette puce M2, voilà, on a vraiment l'impression que c'est quelque part c'est une puce de transition.
Oui.
Et ça veut aussi dire qu'Apple en a sous la pédale parce que voilà, les M3, ne serait-ce qu'avec la gravure de 3 nanomètres, ils devraient être en position de bien progresser. Donc on peut s'attendre. Alors on part déjà de début d'année prochaine pour des MacBook Pro M3. On devrait s'attendre. La génération devrait être intéressante.
Oui.
Bon, maintenant, à plus court terme, la question est de savoir qui c'est qui va bénéficier de cette gravure 3 mm en premier, 3 nanomètres plutôt. Est-ce que ça sera les iPhone 16, le Mac Pro? Est-ce que ça sera peut-être de temps en temps, Apple se sert d'un terminal comme l'iPad pour tester tout ça? On verra ça.
Ce qui t'a étonné, et ça s'est encore confirmé hier, c'est que Apple réserve justement ses nouvelles puces à des produits finalement d'entrée de gamme, comme le Mac Mini. Alors évidemment, on peut difficilement considérer que les MacBook Pro sont des machines d'entrée de gamme, mais ça aussi, c'est un changement stratégique pour Apple depuis la bascule vers Apple Silicon.
C'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était peut-être uniquement transitoire avec l'arrivée du M1 et que au début il faille faire des volumes et donc on commence par les machines qui se vendent le plus et puis après on monte de plus en plus dans la gamme. Enfin c'est quelque chose qui a l'air d'être la nouvelle normalité chez Apple, à savoir on sort une nouvelle puce, donc le M2, on le commercialise dans un premier temps sur les machines d'entrée de gamme que sont le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Voilà, puis après on sort une version Pro, une version Max. Donc là on avance un petit peu en mettant cette puce dans le Mac Mini et dans le MacBook Pro. Et on peut estimer, logiquement, que d'ici 2-3 mois, ou peut-être un peu plus, hein, on va dire au pire d'ici la rentrée, ce sera le tour des machines très haut de gamme, comme le Mac Studio et, je l'espère, le Mac Pro. Et c'est vrai que le cas du Mac est finalement assez unique, parce que sur les iPhones, ça reste tout le contraire. Les nouvelles puces, eh ben, elles sont pour les iPhone Pro, et d'ailleurs maintenant que pour les iPhone Pro. Ouais. Et dans le monde du PC, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, on est plutôt habitué à ce qu'il arrive d'abord sur les machines haut de gamme, et puis après qu'il soit décliné petit à petit dans le milieu et dans l'entrée de gamme.
Alors on peut dire deux mots quand même de ces nouveaux MacBook Pro. Là on est assez clairement dans une sorte de continuité en fait. Apple s'est contenté, si on peut dire, de greffer des puces M2 à la place des M1 qu'il y avait avant.
Oui, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est un speed bump à l'ancienne. Ouais. Donc c'est le nouveau système sur puce. C'est un Wi-Fi qui est un tout petit peu meilleur avec le Wi-Fi 6E, et oui. C'est de la RAM en plus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de... Mais quelque part, ces machines vont finir de... À mon avis, de... Enfin, s'il y avait encore des esprits chagrins sur... concernant les MacBook Pro de la génération précédente, là, je pense que Apple va finir par convaincre tout le monde de oui. l'efficience et de sa nouvelle architecture.
Est-ce qu'on peut dire aussi un mot de l'autonomie, parce que ça c'est important pour des portables. Là c'est par contre c'est du jamais vu là pour le coup.
Oui là et maintenant on a, de toute façon on a cette sensation avec les puces M1 et encore plus a fortiori avec les puces M2, c'est-à-dire qu'elles ont un sacré potentiel, elles ont une énorme autonomie, mais maintenant on aimerait presque qu'Apple exploite un peu plus le potentiel de ces puces.
Et pour le Mac Mini, du coup, déjà une version M2 Pro, bah, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ne pouvaient pas investir dans un Mac Studio, mais qui avaient besoin de plus de puissance qu'avec une simple puce M2 dans le Mac Mini d'entrée de gamme.
C'est une belle manière de fêter avec quelques jours de retard l'anniversaire du Mac Mini. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Pierre était un petit peu pessimiste quant à l'avenir de cette machine.
C'est vrai.
Alors, c'est vrai que au niveau du design, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose. Mais c'est quelque chose de très 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 intéressant. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on a tous été un petit peu choqués. Hein. C'est quelque chose qui a été assez dur à avaler. Le prix du Mac Mini a baissé.
Eh oui.
Et ça, bon, voilà.
Désolé pour les actionnaires.
Voilà. Bon, je vous rassure, Apple, dans le même temps, on a profité. Pour augmenter légèrement le prix de l'iMac, oui. Histoire de contrebalancer. mais ce qui est intéressant, plus que jamais dans cette histoire de Mac Mini, qui est donc revenu à un prix assez attractif dans l'entrée de gamme, c'est que c'est un ordinateur de bureau entre le modèle entrée de gamme et le modèle haut de gamme. Je pense qu'il peut convaincre 80 ou 90% des acheteurs. Mmh. C'est-à-dire qu'aussi bien la personne qui veut une machine entrée de gamme, qui veut une machine de bureau... pour faire, entre guillemets, des choses relativement simples. Et j'attends de voir ça avec impatience, mais j'ai l'impression que le Mac Mini M2 Pro, donc le modèle haut de gamme qui est un peu plus de 1 500 €, il pourrait convenir à l'immense majorité des utilisateurs qui veulent un peu de puissance, une machine pour jouer, une machine, qui veulent vraiment exploiter un ordinateur.
Ça risque de repousser encore un peu plus le Mac Studio dans la niche, en fait, des utilisateurs vraiment très professionnels.
C'est possible, et forcément, il y a une partie de l'histoire qu'on n'a pas à l'instant T. C'est évident que le Mac Studio, il sera revu d'ici quelques mois, et il sera intéressant de voir, justement, comment la gamme desktop va s'architecturer, avec d'un côté le Mac Mini qui prend beaucoup d'espace,
oui.
De l'autre le Mac Studio et ce Mac Pro. Alors est-ce que le Mac Studio, on va peut-être avoir finalement un peu comme le Mac Mini, une gamme à rallonge avec un sort de gros Mac Studio qui sera le Mac Studio Pro, nul ne sait, mais oui, enfin, moi je pense que l'avenir ainsi voilà est assez excitant, et c'est presque perturbant de voir Apple proposer tant de machines de bureau, sachant que il y a moins de 10%, et quand je dis 10%, je suis très très optimiste quand je dis ça, ouais. Des ventes de Mac qui sont des ordinateurs de bureau.
Ouais. Merci pour ce premier tour d'horizon des nouveaux Mac. Alors évidemment, on n'a pas fini d'en parler sur Mac Génération et on va se lancer dans les tests très rapidement dès qu'on reçoit les machines. Salut Christophe.
Salut Michael, salut à tous.
Et merci à vous de nous avoir suivis ce matin. À très bientôt pour de futures aventures.